Alors, aujourd'hui, on se penche sur une question qui bouillonne pas mal en coulisses, j'ai l'impression, la spiritualité en ligne. Est-ce que c'est en train de vivre une crise?
Une vraie crise existentielle, oui. Est-ce que c'est la fin de quelque chose ou juste une transformation, mais une transformation brutale?
C'est ça. Et pour explorer ça, on a des sources assez uniques. C'est le verbatim d'un débat, presque une thérapie de groupe, en fait, entre des créateurs de contenu de ce milieu.
Des gens qui sont au cœur du réacteur, en quelque sorte.
Exactement. Et ils dressent un constat, sans appel, un épuisement généralisé, un burn-out collectif face à la surabondance. C'est un regard de l'intérieur, et c'est ça qui est passionnant.
Tout à fait. Et notre mission, si on peut dire, c'est de démonter un peu ce mécanisme qu'ils appellent la fatigue spirituelle. On va voir que ça part d'un trop-plein d'infos, de sujets qui tournent en boucle.
Pour arriver à un vrai tremblement de terre.
Voilà, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui vient dynamiter toutes les règles. Le vrai combat qui se dessine, c'est entre la quête d'authenticité, de connexion humaine et, de l'autre côté, une machine à produire du contenu en série.
Un contenu calibré pour les algos, pas pour les gens.
Exactement.
Commençons par le diagnostic alors. Ce sentiment d'être noyé.
Complètement. Un des intervenants lâche un chiffre qui donne le ton. 70% des utilisateurs du web ressentent une fatigue informationnelle. 70%, c'est énorme. Et dans le monde de la spiritualité en ligne, ça prend des proportions délirantes. L'exemple donné est hallucinant. Jusqu'à 600 directs de voyance par jour. Rien qu'en France. 600! C'est de la folie pure. L'analogie qu'ils utilisent est très juste. C'est comme si on vous forçait à manger du chocolat toute la journée.
Au début, on est content.
Oui, mais ça devient vite écœurant. Ou comme voir 10 fois le même film. À la fin, non seulement on n'en peut plus, mais on n'a même plus envie d'aller au cinéma.
Et cette saturation, elle a des conséquences concrètes.
Bien sûr, ça génère de l'anxiété, une perte de confiance. Les gens ont l'impression que tout se vaut, que tout a déjà été dit, que les créateurs, en fait, se répètent. C'est ça, la lassitude est partagée. C'est un cercle vicieux d'épuisement. Et dans ce bruit permanent, pour essayer de se faire entendre, on fait comme le voisin.
Ah oui, le phénomène du mimétisme. J'ai noté une anecdote là-dessus qui m'a fait sourire. Cette mode des créateurs qui utilisent d'énormes micros de radio.
Ah oui, les gros micros.
Pour se faire des vidéos YouTube. Techniquement, c'est souvent un non-sens. Le son n'est pas forcément meilleur. Mais ça fait pro.
Ça fait pro, ça ressemble aux autres. C'est l'illustration parfaite du « on copie l'emballage sans soucier du contenu » en fait.
Et ça ne s'arrête pas au matériel, j'imagine.
Non, bien sûr. Il y a ce que les sources appellent le « diktat du public », ou plutôt le « diktat de l'algorithme ». Les chaînes qui marchent invitent toujours les 3 ou 4 mêmes personnes.
Les têtes d'affiche.
Voilà, parce que leurs noms garantissent des vues. Du coup, on ne découvre plus de nouvelles voix. C'est un club très fermé.
Et ça crée des situations un peu étranges, non?
Oui, certains praticiens, qui ne sont plus invités sur ces grandes chaînes, finissent par créer leurs propres médias.
Par nécessité, donc?
Souvent, oui. Mais pas toujours par passion pour le format. C'est de l'opportunisme commercial. L'interview devient un prétexte pour vendre une formation. Le fond passe au second plan.
Et le public le sent, ça? Ça contribue à la perte de confiance?
Bien sûr. On retrouve la même logique dans les sujets. Il y a des modes.
Oui, les sources citent l'exemple des annales akashiques. C'était partout il y a quelques années. D'ailleurs, c'est quoi exactement, en deux mots?
Alors, très simplement, dans la spiritualité New Age, c'est une sorte de bibliothèque énergétique universelle. La mémoire de tout ce qui a été, est et sera.
D'accord, une sorte de cloud cosmique.
C'est une bonne image, oui. Et il y a quelques années, c'était le sujet. Tout le monde proposait des lectures, des formations. Aujourd'hui, comme le dit un intervenant, le sujet a été traité en long, en large et en travers. Il est rincé. L'audience est passée à autre chose. Donc on a un système qui tourne à vide. Trop de contenu, qui se ressemble, sur des sujets qui s'épuisent. On se dit que ça ne peut pas être pire. Et pourtant, alors qu'on pensait avoir touché le fond, l'IA arrive. Et l'IA, en gros, elle ne rajoute pas de l'eau, elle supprime le fond de la piscine. C'est un accélérateur démentiel.
Crive des horoscopes.
Ah, on est bien au-delà de ça. Les outils décrits sont bluffants. Par exemple, vous donnez un simple article de blog à une IA et elle vous en fait un podcast de 20 minutes.
Ah oui, quand même.
Et le résultat est techniquement parfait. La voix est posée, pas un « e », pas une hésitation. Mais c'est ça le problème, c'est trop parfait.
Il manque l'humain, l'imperfection.
Voilà. Il manque le souffle, la petite erreur, la spontanéité, l'authenticité d'une vraie conversation.
Attendez, parce que là, dans les sources, il y a un truc qui m'a scotché. On bascule dans la science-fiction, mais c'est réel. Cette histoire de l'influenceuse américaine.
Ah, son clone IA.
Oui, elle a vendu pour des millions de dollars l'accès à son clone avec qui ses abonnés pouvaient discuter. C'est bien réel.
Non seulement c'est réel, mais c'est un modèle économique qui fonctionne. Et c'est vertigineux. Ça nous dit que le besoin de connexion est si fort que les gens sont prêts à payer pour une illusion de proximité.
Même si on sait que c'est une machine.
Peu importe, du moment que l'émotion ressentie, elle, est réelle.
C'est fou. Et les sources mentionnent une autre dérive. Cette pub pour une appli qui permet de créer un partenaire virtuel en utilisant la photo de quelqu'un de réel.
Oui. Votre crush de la salle de sport, par exemple. On prend sa photo, on la donne à l'IA et on peut commencer à discuter avec son clone.
Du point de vue éthique, c'est un cauchemar absolu.
Un cauchemar, oui. Et évidemment, le monde de la voyance, qui repose sur la relation d'aide, est en première ligne. Il existe déjà des sites entièrement gérés par l'IA.
Sans aucune intervention humaine ?
Aucune. Ils proposent des consultations sous forme d'abonnement, entre 10 et 70 euros par mois, pour discuter avec un chatbot voyant quand vous voulez.
Mais attendez, ça veut dire qu'il n'y a personne derrière ? C'est un algorithme qui a accès à mes doutes, mes peurs et qui me donne des conseils de vie.
C'est exactement ça. Et ces plateformes ne se contentent pas de répondre. Elles collectent massivement les données personnelles.
Et elles peuvent s'en servir après, j'imagine.
Oui, pour faire de la prospection très agressive. L'IA peut vous envoyer une notif à 3 heures du matin. « Je ressens une angoisse chez vous. » On en parle ? C'est extrêmement intrusif. On pourrait se dire, pour jouer l'avocat du diable, que ça prévient peut-être les dérives obsessionnelles qu'on voit parfois avec de vrais praticiens. Un chatbot, ça n'a pas d'emprise psychologique. Ou si. C'est la grande question du débat. L'un des participants se demande si ça peut être un garde-fou. Mais la plupart pensent l'inverse. Ces IA sont conçues pour créer de l'engagement, de la dépendance.
L'objectif, c'est que l'abonnement continue.
Voilà. Donc, loin de prévenir les dérives, elle pourrait les industrialiser, les amplifier à une échelle jamais vue.
Et derrière tout ça, il y a le coût humain. Qu'est-ce que ça veut dire pour les vrais praticiens ?
C'est un des points les plus touchants. Il y a une vraie inquiétude pour les praticiens plus âgés, souvent des gens honnêtes, mais qui sont, comme ils disent, largués au niveau numérique.
Ils ne maîtrisent pas les codes de YouTube, de TikTok.
Non. Et ils se retrouvent en concurrence frontale avec une masse de contenu gratuit ou bas de gamme, et maintenant avec des IA qui travaillent 24/7. Ils ne peuvent plus vivre de leur activité.
C'est une sorte de grande casse de la profession qui s'annonce. Oui, et la prédiction est assez sombre. La possible disparition à terme de la voyance humaine, remplacée par des IA qui, elles, vous donneront toujours des réponses complaisantes, rassurantes. L'IA ne vous dira jamais une vérité qui dérange si ça risque de vous faire arrêter l'abonnement.
Jamais. C'est une vision assez terrible d'un futur où on choisirait le réconfort artificiel à la vérité humaine.
Les sources emploient un terme fort, la japonisation de la société.
Oui, un terme qui décrit ce repli social où certains préfèrent des interactions virtuelles avec des personnages de jeu, des hologrammes, parce que c'est plus simple, plus maîtrisable.
Sans les complications et les déceptions des vraies relations.
On préfère l'illusion parfaite à la réalité imparfaite.
Et ça nous amène à cette prédiction finale, à la fois absurde et glaçante.
On est en plein épisode de Black Mirror.
Complètement. L'un d'eux prédit, avec ironie, qu'un jour les gens n'iront plus voir un voyant pour savoir s'ils vont rencontrer l'âme sœur.
Ouais. Mais pour savoir s'ils vont trouver l'âme sœur dans une IA qui leur correspondra. C'est une pirouette, mais ça résume parfaitement le glissement qui est en train de se produire.
Si on résume, le monde de la spiritualité en ligne traverse une crise d'authenticité. D'un côté, une surproduction qui a épuisé tout le monde. De l'autre, la rentabilité à tout prix.
Et par-dessus, l'IA qui arrive comme un ras de marée et qui rend la distinction entre le vrai et le faux de plus en plus floue. Le dilemme est clair. Est-ce qu'on choisit la facilité d'un contenu infini, personnalisé, mais standardisé, ou est-ce qu'on fait l'effort de chercher la connexion humaine, plus rare et imparfaite ?
Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière pensée, une piste de réflexion évoquée à la fin. Face à ce déluge, il mentionne une contre-tendance, encore timide.
Laquelle ?
Des jeunes qui, volontairement, se tournent vers la low-tech.
Ils abandonnent leur smartphone pour des téléphones à clapet.
Juste pour appeler et envoyer des SMS.
Pour se déconnecter.
Exactement. Et ça ouvre une question fascinante. Alors que l'IA nous promet un accès instantané à tout le savoir du monde, est-ce que la véritable quête de demain ne sera pas, paradoxalement, de réapprendre à ne pas savoir ?
à reconquérir notre espace intérieur. Le luxe ultime ne sera peut-être plus l'accès à l'information, mais le droit au silence, le droit de ne pas savoir.